L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la disparition de Meng Hongwei, ancien président d'Interpol, nous partons aujourd'hui pour l'Amérique du Sud. Le pays dont il est question est riche en ressources naturelles, en pétrole notamment, mais il connaît une situation de crise profonde depuis de nombreuses années. Situation d'extrême pauvreté, fuite de la population vers les pays limitrophes ou vers l'Europe, violence incontrôlable et corruption endémique, tels sont les maux de ce pays dont le héros national est Simon Bolivar et dont la capitale est Caracas. Vous l'aurez peut-être deviné, nous partons aujourd'hui pour le Venezuela. Le Venezuela, ou la malédiction de l'or noir, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Le Venezuela, ou République bolivarienne du Venezuela, est un pays d'Amérique du Sud, dont les pays frontaliers sont le Guyana, le Brésil et la Colombie. À proximité se trouvent les Antilles néerlandaises et Trinidad et Tobago, dans la mer des Caraïbes. L'un des plus grands fleuves du pays est l'Orénoque, que le Venezuela partage avec la Colombie. D'une superficie de 916 445 km², le Venezuela comptait en 2017 plus de 31 300 000 habitants. Caracas est la capitale du pays, juchée à quelques 900 mètres d'altitude. La deuxième ville la plus importante du pays est Maracaibo, capitale de l'état de Zulia. Les premières traces d'occupation humaine remonteraient à 16 000 ans. Le Venezuela aurait été découvert par Christophe Colomb en 1498 lors de son troisième voyage vers les Indes occidentales. En 1499, le navigateur Amerigo Vespucci, accompagné de Alonso de Ojeda, réalise la première exploration du territoire vénézuélien. Il découvre des populations indigènes installées le long de la côte de la cordillère des Andes jusqu'à l'Orénoque. Ces populations vivent principalement de chasse et de pêche. La colonisation du Venezuela débute au début du XVIe siècle. Les XVIIe et XVIIIe siècles sont marqués par l'essor du cacao. Cet essor provient notamment de l'action de marchands juifs hollandais de Curaçao. Le début du XIXe siècle est marqué par le développement du mouvement indépendantiste. Ce mouvement est conduit par Francisco de Miranda, qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis et à la Révolution française, ainsi que le célèbre Simon Bolivar. Bolivar sera l'un des plus farouches défenseurs de l'indépendance vénézuélienne face aux colons espagnols. Il entre en vainqueur à Caracas en août 1813. Le 17 décembre 1819, la Constitution est votée et Simon Bolivar devient président. L'indépendance du Venezuela est définitive le 24 juin 1821. Au XXe siècle, la découverte de gisements pétroliers transforme en profondeur l'économie vénézuélienne. Jusqu'à ce moment-là, elle était principalement basée sur le cacao et le café. À partir des années 1930, la puissance du Venezuela se base sur une économie pétrolière. Dans le courant de la première moitié du XXe siècle, les manettes du pouvoir sont aux mains de gouvernements militaires. À la fin des années 1990, une nouvelle figure apparaît hors des partis politiques traditionnels, le lieutenant-colonel Hugo Chavez. Et qui est donc Hugo Chavez? Né le 28 juillet 1954 dans le sud du Venezuela, il fut le président de la République de 1999 à 2013, après avoir fondé le Parti Socialiste Unifié du Venezuela. Avant de prendre la tête du pays, il a donc effectué une carrière militaire. En 1983, Hugo Chavez participe à la création du mouvement révolutionnaire bolivarien 200. En février 1992, le MBR 200 tente un coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez. L'échec de cette tentative de coup d'État vaut 2 ans de prison à Hugo Chavez. Après avoir purgé sa peine, Chavez fonde un parti politique, le mouvement 5ème République. Il remporte l'élection présidentielle le 6 décembre 1998. Opposant virulent au capitalisme néolibéral, il dénonce sans relâche la politique étrangère des États-Unis. Il noue de solides alliances avec les gouvernements socialistes en Bolivie, en Équateur et à Cuba. En 1999, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Le nom du pays change et devient la République bolivarienne du Venezuela. Le Sénat est aboli, le mandat du président est allongé. Un référendum révocatoire est mis en place afin de destituer un fonctionnaire ou un président. Chavez a mené une politique sociale en redistribuant les terres aux plus pauvres. Cette redistribution se fait grâce à la nationalisation de grandes entreprises et en s'appuyant sur les revenus de la compagnie pétrolière nationale, la PDVSA. Pendant une partie de ses mandats, il peut compter sur l'abondance des ressources pétrolières du sous-sol vénézuélien et sur les cours élevés du pétrole. Développant un culte de la personnalité, il met à sa botte les télévisions et les radios d'État. Un programme entièrement dédié à sa gloire est d'ailleurs diffusé, il s'appelle « Allô Président ». À partir du début des années 2000, l'opposition se structure et, graduellement, le chavisme montre des signes d'érosion. Souffrant d'un cancer, il décède le 5 mars 2013 à l'âge de 58 ans. Nicolas Maduro, Juan Guaido, quel avenir pour le Venezuela? L'héritage des années Chavez est lourd. Le tissu industriel est totalement atrophié, l'inflation est galopante et les pénuries alimentaires sont dramatiques. Les années Chavez sont aussi marquées par une forte criminalité et une explosion du taux d'homicide. Avant de mourir, Hugo Chavez désigne son successeur, Nicolas Maduro, qui était vice-président et ministre des Affaires étrangères. Sous la présidence de Nicolas Maduro, le Venezuela s'enfonce dans la crise politique, économique et sociale. Début janvier 2019, l'opposition au pouvoir se structure sous la houlette de Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim. Juan Guaido est un homme politique de 35 ans, député d'un État du nord du Venezuela. Le 5 janvier, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Suite à son arrestation par les services de renseignement, sa cote de popularité est montée en flèche. Cela traduit bien la profonde aspiration au changement de la population vénézuélienne. Face au refus de Nicolas Maduro de céder le pouvoir, Juan Guaido se dit prêt à amnistier les militaires, enclins à lâcher Maduro. Au Venezuela, l'armée est un pilier fondamental pour la stabilité du pouvoir politique. En divisant les rangs de l'armée, Juan Guaido pourrait ainsi s'ouvrir les portes du palais de Miraflores. Les jours et semaines à venir seront décisives en ce qui concerne le dénouement de l'affrontement entre Juan Guaido et Nicolas Maduro. Parlons maintenant de la maladie hollandaise ou de la malédiction des ressources naturelles. La situation calamiteuse de l'économie vénézuélienne provient de différents facteurs, mais il en est un sur lequel je souhaiterais revenir plus particulièrement. La Dutch disease, ou maladie hollandaise, est un phénomène bien connu des économistes et qui décrit les conséquences économiques d'une forte dépendance aux ressources naturelles pour un pays. L'un des fondateurs de l'OPEP, le Vénézuélien Juan Pablo Pérez Alfonso, avait, dès le début des années 1970, pointé les aspects négatifs liés à la richesse pétrolière, tels que la pauvreté, la corruption ou le manque d'investissement dans les infrastructures ou l'éducation. Il allait même jusqu'à qualifier le pétrole d'excrément du diable. Alors, pourquoi parle-t-on de maladie hollandaise? Ce concept fait référence à la situation économique des Pays-Bas dans les années 1970, qui connaissait une phase d'enrichissement rapide suite à l'exploitation du gisement gazier de Groningue en mer du Nord. Les comptes du pays étaient largement excédentaires en raison de la valeur du florin qui était devenue l'une des monnaies les plus fortes du monde. Dans le même temps, les Pays-Bas sont entrés en phase de récession économique, la production industrielle connaissait une période de stagnation et le taux de chômage a été multiplié par 4 en quelques années. Les dépenses publiques se sont fortement alourdies suite à l'augmentation des salaires et de diverses prestations sociales. Retraite, allocation, droit au chômage. Ce syndrome était la traduction d'une conjoncture économique en crise et d'une balance des paiements excédentaire. Un autre effet de la maladie hollandaise est l'absence de dynamique interne ou de volontarisme politique pour développer d'autres productions, vu que les revenus sont principalement assurés par les ventes d'hydrocarbures. Plus de deux semaines après l'autoproclamation de Juan Guaido à la présidence par intérim du Venezuela, la situation reste tendue. De plus en plus de pays reconnaissent la légitimité de Juan Guaido, alors que Nicolas Maduro refuse de céder le pouvoir. La reconnaissance par Washington et la mise en place de sanctions économiques resserrent l'étau autour de Nicolas Maduro. Il reste à espérer que les tensions internes ne dégénèrent pas en guerre civile. Ainsi s'achève cette chronique sur le Venezuela. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.